Deutsche Welle Carrefour Europe.
Une soixantaine d'ONG européennes et mondiales lancent un appel. Elles demandent à l'Union européenne d'empêcher les firmes d'acheter les ressources minières qui financent les conflits, notamment au Congo. Des explications dans cette édition. Comment défendre les traditions culinaires africaines face à la puissance de l'agroalimentaire et des importations d'Europe ou d'ailleurs ? Une association italienne baptisée Slow Food a lancé le pari. Elle expose les produits africains en Italie. Nous irons sur place. Voilà les thèmes de cette émission. Bonjour et bienvenue. Faute d'une agriculture performante, de nombreux pays africains importent des produits alimentaires. 25% des céréales consommées sont actuellement importées en Afrique subsaharienne, contre 5% dans les années 60. Dans certains pays, cette aide ou ces achats constituent même une source régulière d'approvisionnement, constate l'organisation internationale OCDE, et ce, au détriment du développement de l'agriculture locale. Alors, ce cercle vicieux est-il fatal ? Pas pour l'association italienne Slow Food, qui milite pour un modèle de développement différent. L'association, qui compte quelques 100 000 membres, a été créée en réaction au fast-food, l'alimentation industrielle de masse. Elle s'est engagée pour défendre l'efficacité et la durabilité de l'agriculture et de l'alimentation locale. Son fondateur, Carlo Petrini, a reçu la distinction de champion de la terre décernée par les Nations Unies. Slow Food veut donc promouvoir le savoir-faire culinaire africain et c'est le reportage de Mathilde Auvillain, notre correspondante en Italie.
Derrière son étal, Boubacar, en habit traditionnel burkinabé, ne se lasse pas de raconter les secrets de fabrication de son fromage Made in Sahel. Touristes, agriculteurs et producteurs occidentaux l'écoutent doctement, roulant des yeux gourmands et curieux.
Et le fromage, on peut le faire avec le lait de vache, on peut le faire avec le lait de mouton et le lait de chèvre. Mais chez nous, au Sahel, on utilise plus le lait de vache parce que le lait de chèvre, on le donne plus aux petits-enfants.
À Bra, près de Turin, dans le nord de l'Italie, le festival Cheese, organisé tous les deux ans par Slow Food, réunit des producteurs de fromage et de produits laitiers du monde entier. Une sorte de vitrine de l'action de l'association italienne qui fait la guerre à la culture du fast-food. Ses armes, la formation, la communication et le soutien financier à des projets durables. Slow Food, créé en 1986 dans ce petit bourg du Piémont, a peu à peu élargi son rayon d'action à tous les continents. Aujourd'hui, elle aide certains producteurs africains à protéger leurs produits traditionnels. Exemple, le lait de chamelle produit par les éleveurs nomades Karayou, une communauté pastorale éthiopienne dont est originaire Roba Boulga, jeune étudiant en sciences gastronomiques à l'université de Slow Food.
Si on ne soutient pas ce genre de produit, la culture des pasteurs qui voyagent d'un lieu à l'autre va disparaître très vite. Car les pasteurs sont dans une situation délicate quant à leur droit à la terre. On ne les laisse plus aller d'un endroit à l'autre comme ils avaient pourtant l'habitude de le faire. Et donc, défendre leurs produits, le lait de chameau, en faire la promotion au niveau national et international, leur donne une chance de survivre. C'est pour ça que nous avons créé la Sentinelle.
Une Sentinelle pour Slow Food, c'est un projet pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine alimentaire et de la biodiversité agricole. Vanille de Manara à Madagascar, miel blanc du Tigré en Éthiopie, couscous salé de l'île Fadiout au Sénégal, tous ces produits font partie de la tradition alimentaire et gastronomique du continent africain et doivent à ce titre être protégés. Velia Lucidi, chef de projet Slow Food en Afrique du Nord.
Pour nous, l'important, c'est le marché local. On veut que ces produits restent en Afrique et soient consommés par les Africains. On essaye de valoriser la culture locale en les organisant, en les faisant vendre, etc., en lui donnant aussi valeur à ce qu'ils font. Parce que le modèle qu'ils essayent de copier, c'est quand même le modèle occidental.
Et le modèle occidental pour Slow Food, c'est loin d'être un modèle, comme le fait remarquer une autre chef de projet, Michael Allen. Magenta. Les agriculteurs africains n'arrivent plus à vendre leurs produits sur le marché parce qu'il y a des produits qui arrivent de l'étranger et qui coûtent moins que les produits locaux. Mais ils sont aussi de très mauvaise qualité. Par exemple, toutes les ailes de poulet que nous ne mangeons pas finissent sur les marchés de Freetown, au Sierra Leone.
Et pour Michela, comme pour tout le mouvement Slow Food, il faut tenter de corriger ces déséquilibres.
Sans cela, on n'arrivera pas à aider l'économie africaine. Et on ne l'aidera pas en donnant des aides financières, mais en l'aidant à s'aider elle-même.
Pour Slow Food, l'Afrique pauvre et affamée, suspendue aux aides internationales, n'est pas une fatalité. Aux pessimistes qui les accusent d'être de doux rêveurs, le fondateur de Slow Food, Carlo Petrini, répond très fermement : quoi de plus politique que de prendre une utopie et de la faire devenir réalité ?
Alors, le grido nuovo non è terra e libertà, è cibo e libertà.
Le nouveau cri, ce n'est plus terre et liberté, c'est nourriture et liberté, parce que je parle de l'économie primaire, parce que je parle de la production qui nous permet à tous d'être vivants. Je ne suis pas en train de parler du manufacturier. Je parle d'une chose qui, pour chaque homme et chaque femme sur cette planète, est l'exigence primaire de la vie, de la société, de la santé. Et donc il faut changer de paradigme, réévaluer l'économie primaire et recommencer à penser que la souveraineté alimentaire est un bien précieux. En France comme au Burkina Faso, en Italie comme au Chili, chaque pays a le droit de semer, de planter et de manger ce qui fait partie de sa tradition.
Une conviction partagée au plus haut niveau, l'ONU a décerné le titre de champion de la terre au fondateur de Slow Food. Et même le pape François, dont les parents étaient originaires du Piémont, a téléphoné à Carlo Petrini et l'a félicité pour le travail stupéfiant réalisé par Slow Food dans le monde entier.
Et c'était un reportage de Mathilde Auvillain, notre correspondante en Italie.
Yakakati abumoi nanga molili eluti minginga na kuku kateo okolo.
Un conflit qui s'éternise. Plus de 5 millions de personnes mortes depuis le milieu des années 90 dans l'est de la RDC, sans compter la détresse des populations survivantes. Le sous-sol du Congo, qui regorge de richesses minières, suscite la convoitise des diverses rébellions et alimente le commerce d'armes. Une soixantaine d'ONG demandent donc à Bruxelles d'imposer aux firmes européennes de ne plus acheter ces minerais comme l'or, le diamant, le cobalt ou le zinc. Une législation est en préparation sur ce thème. Nous avons demandé à Sophia Pickles de l'ONG Global Witness pourquoi cette démarche.
Nous, comme organisation qui travaille sur les minerais, donc la richesse des minerais au Congo, nous avons depuis très longtemps souligné l'importance d'une bonne gestion de les ressources naturelles dans les pays. Nous avons depuis longtemps fait un appel à l'Union européenne d'améliorer les entreprises européennes utilisent et s'approvisionnent des minerais de Congo. Et nous disons que la façon dont les minerais du Congo alimentent le conflit à l'est du pays, c'est un aspect qui a été négligé par l'Union européenne.
Alors, votre ONG Global Witness réclame une nouvelle législation européenne. Alors, en quoi consisterait-elle ?
La première chose à dire, c'est que le caractère mondial des chaînes d'approvisionnement modernes implique que les ressources naturelles alimentent certains des conflits les plus coûteux de la planète, y compris ce qui se passe au Congo en ce moment. Donc, nous demandons à la Commission européenne d'adopter une législation qui impose aux acteurs économiques d'exercer un devoir de diligence, ça veut dire vérifier le chaîne d'approvisionnement, afin qu'ils ne participent pas au financement des conflits et des violations des droits de l'homme.
C'est-à-dire concrètement, vous voulez que les grandes firmes européennes ou qui ont leur siège en Europe, en tout cas, vérifient de bout en bout comment on extrait ces minerais et où va l'argent, c'est ça ?
Oui, c'est une question de la responsabilité des grandes entreprises européennes. C'est une question de s'assurer que les minerais qu'ils utilisent sont approvisionnés dans une manière qui est responsable. Parce que selon nous, ces entreprises, elles ont une responsabilité par rapport à leur activité économique. Et trop souvent, les entreprises européennes ou asiatiques ou américaines investissent de manière irresponsable en Afrique ou ailleurs.
Il y a une législation qui est en préparation sur ce thème à l'Union européenne et c'est pour cela que vous faites campagne.
Nous voyons que c'est vraiment une occasion pour l'Union européenne de s'assurer que les entreprises réagissent d'une manière responsable. Et je dirais qu'avec plus de 480 millions de consommateurs, l'Union européenne, qui se classe parmi les plus grands marchés uniques mondiaux, bénéficie d'importantes influences.
Mais alors, on pourrait vous dire que si l'Union européenne applique une législation trop stricte, est-ce qu'elle ne risque pas d'être doublée par d'autres exploitants miniers qui sont nettement moins regardants sur les droits de l'homme, comme par exemple la Chine ou même le Rwanda ?
Je dirais que non, en fait. Je dirais qu'il y a un changement qui doit prendre place, qui a déjà commencé après l'introduction d'une loi américaine qui traite le même sujet.
La loi Dodd-Frank.
Oui, la loi Dodd-Frank, exact. Et je dirais qu'il y a des impacts bénéfiques pour les entreprises. Par exemple, une gestion transparente des chaînes d'approvisionnement permettra aux entreprises d'identifier et de se prémunir contre les risques d'irradiation et de destruction de l'environnement, par exemple. De deux, une législation européenne diminuerait le risque de réputation pour les entreprises européennes aussi.
Sophia Pickles de l'ONG Global Witness. Sachez aussi que la Cour des comptes européenne a publié un rapport plutôt accablant sur l'aide au Congo. Il montre que seulement la moitié ou même moins de la moitié de l'aide européenne en RDC, soit près de 2 milliards d'euros, a produit les résultats escomptés. Il est temps de nous quitter. Si ce thème vous intéresse, écrivez-nous à français@dw.de. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Et en attendant de vous lire, bonne suite de programmes sur les ondes de la Deutsche Welle.